Flux4 est une émission un petit peu spéciale pour commencer cette journée au Festival de cinéma Entrevue de Belfort, puisque notre ami Giuseppe Di Salvatore, fondateur du site spécialisé dans les images en mouvement filmexplorer.ch, nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Giuseppe.
Bonjour Nicolas.
Quand je disais nous, je veux bien sûr parler aussi de Oyku Sofuoglu, autrice et critique de cinéma, et de Olivier Legras, notre metteur en son et en proie à un gros rhume de saison. Olivier, il faut dire qu'il ne devrait pas tarder à neiger à Belfort. Raison de plus, sans doute, de venir se réchauffer dans une salle de cinéma. Alors, Oyku et Giuseppe, vous allez nous faire part de vos sentiments et de vos réflexions autour de trois longs métrages présentés en compétition cette année et qu'il nous a paru important de rassembler dans ce programme de discussion critique, car d'une part, ils nous viennent tous les trois des États-Unis, un pays dont le récit national semble, sinon au point mort, en tout cas assez inaudible aujourd'hui et dont nous avons un peu de mal à comprendre les aspirations sociétales et politiques. Et d'autre part parce que ces films nous proposent en quelque sorte de nous donner des nouvelles de cette Amérique troublée à travers le regard d'une jeune génération de cinéastes avides d'explorer des territoires narratifs nouveaux et de proposer des écritures filmiques singulières tout en s'inscrivant dans la continuité d'une tradition qui est celle d'un cinéma indépendant américain bien identifié. Alors ces trois longs métrages qui pourraient aussi se concevoir comme trois états des lieux ou trois portraits ultra contemporains de la jeunesse américaine sont toutefois bien différents dans leur facture et dans les effets qu'ils produisent. Nous parlons donc de Invention, de Courtney Stephens, de Soft Shell, de Gino Myung et de No Sleep Till d'Alexandra Simpson. Commençons peut-être par le film de Courtney Stephens, Invention. Après la mort inattendue de son père conspirationniste, sa fille reçoit comme héritage le brevet d'une machine médicale expérimentale. C'est à travers la découverte de cette invention et de la rencontre avec celles et ceux qui connaissaient son père qu'elle va peu à peu faire son deuil. Giuseppe Oyku, vous avez vu ce film déjà à Locarno. Que peut-on en dire? Quel est votre regard sur ce long métrage?
D'ailleurs, merci Nicolas de nous accueillir, de nous accueillir ici sur... des points radio. Le film Invention, c'est un des films qui m'a plus frappé à Locarno. C'est un film petit, ça pourrait passer comme un film petit, c'est un film pas très long et qui bouge pas après pas en douceur, je dirais. Il n'y a pas des grands drames, mais il y a le drame, comme tu l'as dit, de cette protagoniste qui cherche de se réconcilier avec la figure du père, figure rejetée. Figure qui incarne le rêve américain, l'American Dream, personnage optimiste, inventeur, justement, d'où le nom du film Invention, et qui surtout est mêlé justement à ce discours conspirationniste et à des croyances par rapport à des retrouvailles technologiques assez improbables. Donc, ce qui m'a frappé en particulier de ce film, c'est le fait que cet rapport critique que la figure de la fille, de la protagoniste, qui est d'ailleurs Cali Hernandez, qui a co-écrit le film et qui elle-même parle un peu de façon autobiographique dans ce film, justement, c'est un point de vue critique par rapport à cet American Dream, par rapport à une certaine Amérique qu'on voit aussi dans des images télévisées, dans des images surtout des années 80-90. Mais c'est pas une critique, c'est seulement le point de départ du film. Et je trouve que tout l'intérêt du film, c'est de faire de ces critiques, de déconstruire un peu ces critiques. Ce point de départ, c'est le point de départ d'une réconciliation vers la figure du père, et donc c'est aussi le point de départ pour regarder avec beaucoup plus de nuances ce qu'on a tendance à critiquer dans l'Amérique. Facilement croyante, un peu fanatique, optimiste à tout prix. Donc c'est ce parcours dramaturgique d'abord que je trouve assez intéressant parce que c'est un parcours qui va vers le complexe, du simple au complexe, et qui nous interroge par rapport à une Amérique peut-être un peu cliché et que finalement on découvre plus complexe que ça.
Je suis vraiment d'accord avec toi parce que c'est une tendance très présente dans le cinéma indépendant américain, surtout avec des comédies, des films indie, dits comme par exemple The Sweet East, de ridiculiser un peu ce genre des gens un peu qui vivent dans la marge de société, qui sont un peu loin de personnes rationnelles, de personnes, comment dire, très croyantes, extrémistes, dans le sens, au sens général du terme. C'est une tendance très présente de nous éloigner encore de plus en plus de ces personnes-là, alors qu'Invention le fait le contraire, de donner une ampleur de profondeur à l'idée de croyance, de dire que ce n'est pas juste une sorte de une dimension dérisoire des gens, mais vraiment une réalité, et comprendre pourquoi, d'où ça vient et comment c'est ancré dans la société américaine, que ce n'est pas quelque chose de nouveau qui date d'aujourd'hui, mais qui fait partie du tissu même de la société américaine. Et j'ai l'impression que c'est important. C'est le côté critique, bien sûr, c'est, il est là, on le voit, mais ce n'est pas uniquement une critique unidimensionnelle. C'est plus compliqué que ça. Et ce qui m'intéressait le plus, j'aime beaucoup les narrations méta, donc qui est un peu, comment dire, qui crée une sorte de double lecture de la réalité de l'actrice, et en utilisant, créer une autre réalité, en ajoutant quelque chose. Et ce qui m'a plu dedans, c'était aussi cet aspect-là, je pense.
Et cette double narration, si l'on veut, c'est aussi un jeu entre fiction et documentaire, parce que documentaire, peut-être c'est pas le bon mot, mais en façon assez réaliste et premier degré. J'ai déjà nommé Cali Hernandez comme protagoniste, co-écrivaine et ses dimensions autobiographiques. Et il y a une autre figure qui est une des deux figures qui, pour moi, représente vraiment cette critique rationaliste contre l'Amérique un peu trop croyante, disons comme cela. Et c'est James N. Kenneth Wilkins qui joue le rôle du notaire, et d'une façon assez improbable aussi, et donc d'une façon un petit peu peut-être forcée, mais consciemment forcée, donc avec une touche de autoridicolisation, je dirais. Mais James Kenneth Wilkins est un grand artiste, c'est un ami évidemment de Courtney Stevens et Cali Hernandez, mais c'est aussi un grand artiste, et c'est aussi peut-être un des grands champions aux États-Unis aujourd'hui par les jeunes artistes de la critique à une certaine Amérique capitaliste, consommériste, etc. Donc allez voir d'ailleurs les œuvres de James Kenneth Wilkins, c'est fantastique. Donc il y a ces doubles niveaux, hein. Il y a ces niveaux de narration filmique classique, et en même temps, c'est pas juste parce que c'est un ami, je pense que il a choisi cela pour cette raison. Et l'autre figure, qui est aussi l'autre figure, je dirais, de cet scepticisme un peu rationaliste qui incarne le film, c'est Sam McGlynn, qui est aussi un auteur et réalisateur de films indie, comme tu disais, justement. Donc voilà, justement, ce va-et-vient, c'est constant, ces va-et-vient entre différents niveaux, tout en étant un film, disons-le, assez facile à voir, assez agréable.
Drôle aussi. Il y a une certaine forme d'humour à combustion lente, un peu burlesque, un peu insolite dedans, me semble-t-il.
Oui, absolument, absolument. Et donc c'est un film aussi qui sait plaire. C'est pas un film nécessairement difficile ou dur, ou compliqué à suivre.
Et comme tu as cité quelques noms, ce que je trouve intéressant, c'est aussi le fait que le personnage principal, quand on dit la fille, je veux dire, elle est comme un vaisseau dans le film. Elle est jamais au centre de la narration, mais elle donne l'occasion aux autres de s'exprimer. Donc j'aime beaucoup cette idée d'utiliser un personnage qui devait être au centre, mais qui se met à côté pour donner lieu, pour donner la parole aux autres. Donc c'est ce jeu entre le centre et le marge devient plus présent dans la narration même du film, je pense.
Et c'est la raison pour laquelle je pense que chaque Américain, je pense, surtout, peut se reconnaître dans cette figure. Dans ce film, il en va vraiment de l'héritage américain. Qu'est-ce qu'on fait de cette Amérique dont on a toujours parlé, dont on a créé un véritable cliché? Et je pense que dans ce film, Courtney Stevens, vraiment, de façon très nuancée, parce qu'attention, il ne s'agit pas de réhabiliter la figure de père, et donc il ne s'agit pas de revenir au dream américain de façon naïve. Ou tout au contraire, la critique reste, mais en même temps, on fait un pas de compréhension qui est fondamental et essentiel pour comprendre justement l'Amérique, et on a certainement besoin en ce moment. Donc, oui, moi, ça me vient aussi directement maintenant en connexion à un autre film, parce que nous allons discuter.
Alors, cet autre film, c'est Soft Shell de Jio Myung, un film qui suit l'itinéraire d'un frère et d'une sœur d'une vingtaine d'années. Tous deux américains d'origine thaïlandaise, ils viennent de perdre leur mère, vivent sous le même toit et doivent faire leur premier pas dans cette nouvelle existence d'orphelin. D'ailleurs, voilà une thématique qui est un peu liée aussi avec celle de Invention.
Voilà, c'est justement cela qui me faisait faire la connexion, cette dimension d'être orphelin, qui évidemment, c'est des histoires. Disons-le, tous les trois films mettent le centre sous l'intériorité, mettent le centre sous la dimension intime des personnages. Mais en même temps, et c'est ça la force des trois films ensemble, je dirais, nous parle de l'Amérique, nous parle de la dimension et rurale et surtout urbaine de l'Amérique. Donc, le fait d'être orphelin, c'est un fait de l'histoire, mais c'est en même temps clairement aussi une métaphore, disons, d'une nation, d'un pays par rapport auquel peut-être on ne se reconnaît plus. Alors, le parcours que Soft Shell va faire, c'est très différent, donc c'est le point d'ancrage avec Invention, c'est le fait d'être orphelin, les protagonistes dans les deux cas,
c'est des orphelins. C'est aussi de retrouver le père qui était perdu, alors qu'ici, quelqu'un qu'on connaît bien qui était perdu, alors qu'ici, c'est une sorte de geste différent, un peu opposé quand même. Non?
Oui, pour moi, l'opposition, d'abord, c'est la mère, c'est pas le père.
Ah, oui.
Mais l'opposition, c'est plutôt le fait. Alors, ces deux protagonistes, frères et sœurs, très jeunes, ils ne savent pas quoi faire. Donc, là où il y a une grande conscience de la part de la protagoniste d'Invention, là, il y a vraiment cette sensation d'être perdu, de ne savoir aussi pas d'où commencer, même peut-être de ne pas savoir souffrir par rapport à cette manque. Et donc, c'est un film qui se cherche, qui nous accompagne. Enfin, nous accompagnons les protagonistes dans une quête qui n'a pas nécessairement une orientation. Donc, on est un peu perdu. Le film se construit aussi dans sa narration de façon totalement non linéaire. Mais ce qui est très fort, justement, que là où Invention interroge une identité très claire, le dream américain, comme on l'appelle, etc., dans ce cas-là, on parle d'une identité qui est aussi très américaine, mais qui est totalement au-delà des clichés, parce qu'on parle d'une identité certainement hybride, avec une culture de l'Asie asiatique et américaine en même temps, dans le sens qu'il y a un mélange de cultures, même en termes de visage, on a un mélange. On ne sait pas trop, finalement, il semble comprendre que les deux frères et sœurs n'ont pas le même père. Après, il y a des rencontres aussi avec des personnages qui viennent d'un passé d'immigration. Donc, c'est un film qui joue aussi par rapport au langage, parce que les deux protagonistes s'approprient du langage de leur mère sans vraiment être capables de parler très bien. Donc, l'américain devient un langage pont qui permet justement de tenir ensemble une multiplicité d'identités. Donc, on est dans un territoire d'orphelinat, disons comme cela, assez différente, tout en posant la même interrogation, qu'est-ce qu'on fait d'un héritage comme ça peut être l'héritage américain.
Tu parlais d'hybridation ou d'hybridité. On retrouve ça d'ailleurs dans la forme même du film, qui mêle des régimes d'images très différents. Le film est tourné en pellicule, mais il y a aussi des
jeux vidéo.
Il y a des insertions de jeux vidéo à certains moments. Donc il y a quelque chose qu'on retrouve vraiment dans cette forme d'un film très très généreux. On sent une volonté de la part de ce très jeune cinéaste, il a 22 ans, de faire rentrer plein de choses dans ce premier long métrage et pas de se fixer vers une direction précise. Et ça, je trouve que c'est une aération bienvenue, en tout cas dans ce qu'il nous propose.
Oui, il y a beaucoup d'air, comme tu dis. Il y a beaucoup de... Ça fait partie de cette histoire de deux personnes un peu perdues, mais qui en même temps nous donnent, comme à chaque fois que le cinéma est capable de créer de l'air, ce qui arrive, c'est des émergences très fortes. Alors, je prends juste une scène qui m'a vraiment frappé, que je trouvais très très forte. Les deux frères et sœurs se retrouvent dans un hôtel et il y a l'intervention d'un
portier de nuit
de l'hôtel. qui intervient de façon assez violente, mais c'est cette typique violence américaine.
Très intrusive.
Oui, intrusive, mais que je réformulerais comme.
Très troublant.
Oui, mais que je réformulerais comme une façon assez directe. Donc, c'est une scène magnifique parce qu'on sent la violence, on sent le danger. Et en même temps, qu'est-ce qu'il fait cette personne ? Lui fait connaître leur père avec une intuition incroyable. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, il a compris que c'est des orphelins. Et il remet en contact avec son père, qui est évidemment un père adoptif, disons comme ça, lui, là, le fils adoptif. Donc, pour mettre en contact des personnes, des âmes similaires ou des âmes apparentées par leur biographie. Donc, un geste d'une grande tendresse, mais qui vient d'une scène où on pourrait s'attendre presque à un meurtre. Donc, cet air dont tu parles, Nicolas, justement, c'est ce qui nous permet après, dans des petits détails, parce que c'est un film qui travaille vraiment les détails, qui est très délicat, mais qui nous donne après des moments cinématographiques de grande intensité.
Oui, moi, ce qui me frappait dans le film, c'est aussi l'âge adulte, la présence de responsabilité qu'il croit, ses deux frères et sœurs, doit assumer, qui sont reflétés par les autres. Donc il y a une sorte de des gens qui viennent, si tu as besoin d'aide, n'hésitez pas à nous appeler. Donc comme si leur état d'orphelinat sont sans cesse reflétés sur eux-mêmes. Donc ils doivent confronter cet état, mais jusqu'à la fin. Ils essayent de ne pas prendre en considération, ils essayent de ne négliger, de l'omettre, quoi que ce soit, mais finalement, ça revient. Donc, parce que ils voulaient continuer leur vie d'avant, comme si rien ne s'est passé. Mais à un moment, je pense que la perte advient, l'expérience, la sensation de la perte, d'une manière très viscérale, advient et ils finissent par se confronter à cette expérience de perte. Et je pense que nous non plus, nous étions pas prêts à faire l'expérience de la perte non plus. Donc c'est comme si le film nous met aussi en quelque sorte, je ne veux pas dire complice, mais fait partie de leur expérience d'ignorer tout ce qui se passe autour, ouais. Et en nous faisant perdre dans leur quotidien banal où rien à l'apparence ne se passe.
Oui, peut-être c'est l'occasion de parler de la caméra, que d'ailleurs magnifique, de Riz Carabosio, cinématographe new-yorkais, parce que j'ai l'impression que la caméra se place de façon toujours latérale. Bon, déjà dans la dramaturgie, comme tu dis, Oiku, nous sommes menés dans des endroits inintéressants qui semblent n'avoir pas particulièrement d'efficacité ou d'importance pour l'évolution d'une histoire, constate au cinéma. Donc, on est toujours mis un peu en marge. Et justement, ça sert à montrer ces difficultés d'aller droit à la chose, d'approcher et de se confronter avec une souffrance, dans ce cas-là, le deuil de la perte de la mère. Mais c'est fait justement que, pas seulement par la dramaturgie, je pense aussi par la caméra, dont le choix, dont les positionnements est toujours comme là par hasard. On a toujours un peu la sensation d'être là, témoin par hasard de quelque chose qui se passe. C'est pas une caméra qui met toujours les protagonistes au centre.
Il y a un aspect documentaire presque pris sur le vif en fait dans le travail.
Mais c'est pas intrusif non plus. C'est pas intrusif, même dans les scènes de sexe qui est assez bizarre et un peu dérangeant. Peut-être c'est pas le bon mot, mais en quelque sorte troublant pour la personnage de Jamie. Mais même là,
c'est plus une scène d'après sexe même finalement. Ouais. Elle aussi est en marge de ce qu'elle veut signifier.
Oui, voilà. Donc, moi, je pense que les choix esthétiques, alors, c'est vraiment intéressant qu'il s'agisse d'un réalisateur si jeune, parce que les choix esthétiques me semblent vraiment très, très, très bien pensés. Et il y a vraiment un travail. D'ailleurs, c'est vraiment à la fin du film, il y a un carton où c'est écrit réalisé par Shot by, c'est-à-dire le travail du cinématographe.
Donc, c'est plus la conception du film était faite par le cinéaste. C'est comme si.
Par le cinématographe, tu veux dire,
ouais.
Ouais. Oui, il y a un véritable, je pense, travail à quatre mains là-dessus sur une esthétique. Une esthétique qui porte justement sur cette dimension décentrée, mais qui nous accompagne finalement en scène finale où tout se recentre de façon assez violente. On ne va pas, je pense, spoiler, on ne va pas trop parler de cette scène.
Peut-être un mot, si tu veux dire, sur le split screen, parce que ça, c'est aussi une dimension intéressante du film, je trouve. À côté de la présence d'écran de jeux vidéo, il y a aussi une sorte de séparation visuelle de psyché de ces deux personnages à travers l'image même de la split screen. Tu ne trouves pas aussi cette dimension visuelle qui reflète aussi un peu, en quelque sorte, leur état d'âme dans le film?
Oui, absolument. Il y a d'ailleurs c'est des images assez particulières. Je connais pas ce type de jeux vidéo, mais c'est des images. Ils véhiculent aussi des images dans le split screen, bien sûr. Mais après c'est ensemble avec les images de jeux vidéo. Donc je pense qu'il y a une multiplication des écrans dans le film en général qui parle de leur être multiple, de cette difficile approchement à leur propre identité. Qui finalement ne doit pas amener à une réponse univoque, tout simplement doit être un processus d'acceptation de cette multiplicité. Donc je pense que aussi le fait que les écrans se multiplient, eux dans l'écran et par le split screen, ça fait partie justement d'une esthétique qui parle d'un état d'âme, qui parle d'une...
C'est aussi nous fait penser à un hors-champ identitaire qui est reflété aussi dans le hors-champ visuel, parce que eux-mêmes n'ont pas accès à cet hors-champ identitaire qu'ils ne connaissent pas, mais nous non plus, on ne sait pas comment leur mère est décédée, d'où leur père venait. Mais eux-mêmes, je pense que par rapport à leur histoire familiale, histoire traditionnelle, identitaire, sont à l'écart de leur passé, de leur famille. Et je pense que ça fait aussi une sorte de un intéressant écho à notre propre expérience avec leur être hors champ.
Et hors champ en particulier, autre dimension de décentrement très importante du film, c'est les animaux qui sont peut-être les grands protagonistes ensemble avec les deux, le frère et la sœur, avec lequel le film réussit à tisser toute une série de différentes relations, de tendresse, d'intérêt, de même en approche scientifique jusqu'à à la violence de la. De tuer les animaux pour les manger. Et justement, la scène finale dont on ne va pas parler, va dans ces directions-là. Un élément, mais c'est un des plusieurs dont on pourrait parler, qui nous approche peut-être au troisième film, où il y a aussi un élément de décentrement qui est la nature. Mais là, c'est très, très bien placé au centre. C'est un ouragan. Mais l'autre élément qui certainement l'approche, c'est peut-être ces montages non linéaires, ces montages par pistes parallèles, par un mosaïque de scènes et de personnages qui, encore plus que peut-être dans Soft Shell, ce parcours sont parcourus de façon parallèle pour longtemps. Peut-être.
Tout à fait, oui. C'est vrai que cette forme impressionniste de monter, de construire le film, on la retrouve tout à fait dans No Sleep Till d'Alexandra Simpson. Alors, quelque part dans une ville côtière de Floride, un ouragan est annoncé. Les habitants se préparent à une évacuation d'urgence. La cinéaste met en scène une ronde de personnages qui décident de rester sur place et de profiter de ce moment de suspension des activités humaines pour vivre des expériences sensorielles assez troublantes et inédites. Que peut-on en dire de ce film connecté, on l'a vu, avec, sur certains aspects avec le précédent?
Oui, alors justement, ce que je disais, un peu le montage non linéaire, certainement c'est un élément formel très, très important, mais soulignons peut-être d'abord une grande différence, c'est que l'ouragan, dans ce cas-là, c'est, contrairement aux animaux, par exemple, dans Soft Shell, c'est complètement central, c'est posé depuis le début, ça crée comme un cadre très clair du film, par rapport auquel tous ces personnages sont mis un petit peu sur le même niveau. Finalement, on a des différentes réactions selon aussi l'origine sociale, la mentalité, la vision de la vie, etc. Donc, c'est aussi une façon indirecte de créer une sorte de paysage social où on a différents types et typologies d'Américains. On est en Floride et on a quand même plusieurs personnage typiquement américain, je dirais. Mais donc, l'ouragan constitue le centre par rapport auquel, après, tous les différentes scènes et les différents personnages se disposent et se comparent. En fait, nous, on peut les comparer.
Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment une partie pris très explicite de faire un paysage généralisant ou englobant des États-Unis, parce que ce n'est pas possible. Donc, on ne peut pas dire qu'Alexandra Simpson est allée choisir des personnes qui seront un peu emblématiques de toutes les sociétés américaines, parce que ce n'est pas possible. Donc, je préfère cette sorte de côté arbitraire, un peu hasardeux de personnages qu'elle a décidé de mettre en scène en quelque sorte.
Ou peut-être au contraire, peut-être on pourrait presque dire que finalement ce qui est le lien commun de tous ces personnages, c'est aussi un peu comme dans le cadre social de frères et sœurs, c'est un peu une attitude au fait des personnes qui sont un petit peu à la recherche, un petit peu perdues aussi, un peu à la recherche de quelque chose qui doit changer dans leur vie ou de quelque chose qui n'est pas ronde. J'ai l'impression que l'ouragan constitue aussi l'occasion, une occasion de libération. Peut-être le couple de protagonistes qui est parmi les plus présents dans le film.
Les deux comédiens, tu veux dire ?
Oui, les comédiens cabaretistes, je ne sais pas comment on dit, qui font de la stand-up comedy, qui prend l'occasion, ou un des deux surtout prend cette occasion de l'ouragan pour un peu changer de vie, de se transférer dans une autre. À Philadelphie, dans une autre ville. Donc, c'est aussi des personnages qui sont un peu justement aux marges ou dans tous les cas, dans une situation de vie pas définie.
Précaire aussi, parce qu'ils font de livraison. Normalement, ils travaillent comme livreur. Dans leur travail quotidien, c'est de livraison.
Absolument. Donc, oui, c'est précaire, voilà, précaire, marginal. Donc, finalement, l'ouragan permet... Oui, peut-être rassembler aussi beaucoup de personnes et aussi d'autres qui ont l'air assez solitaires. Donc, je pense que la solitude est aussi un des éléments qui se retrouve mis en valeur dans ces situations un peu exceptionnelles. L'ouragan, non seulement crée toutes ces situations, mais crée aussi une sorte de bulle d'exceptionnalité. Et ça pourrait être considéré comme un film de dimanche. C'est-à-dire un film de vacances, un typique film de vacances où finalement on a l'espace, quand on fait l'air, on a l'espace pour se confronter, se poser des questions, etc.
Mais ce qui est intéressant, c'est le fait que le spectacle de la nature, c'est très ancien en fait. C'est, même si c'est un film qui se passe dans l'époque contemporaine, ça dit quelque chose de très particulier sur la nature humaine aussi, de regarder, d'être impressionné par tout ce qui se passe dans la nature, les pyrotechniques, ou bien le feu, regarder un incendie du feu ou d'ouragan. Donc, ce sont vraiment des traits, des prédilections humaines qui est très partagée, universelle en quelque sorte. Cette dimension-là m'intrigue beaucoup aussi. Même si ça se passe aux États-Unis, il y a quelque chose qui nous parle aussi, qui parle à la nature humaine, très instinctif peut-être.
Absolument. Et là,
et primitive.
Oui, et tout en échappant tout le temps, dans le sens qu'il y a une chose qu'on remarque à la fin du film, que finalement, aucun personnage est confronté véritablement à l'ouragan. Les seules images de l'ouragan que nous voyons, c'est des images peut-être postées par quelqu'un sur des socials. Ça veut dire aucun personnage est finalement vraiment confronté à l'ouragan, le voit vraiment, nous le voyons dans le film. Ce qu'eux, ils voient, c'est plutôt d'autres types d'éclairs. Il y a tout un travail de lumière par rapport auquel il faudrait vraiment parler de ce film qui est énorme. Et là, il faut absolument citer justement là aussi le cinématographe Sylvain Marco Froidevaux qui a fait un travail remarquable. On a du néon, on a du feu, on a beaucoup de scènes de nuit, évidemment. On a tout un tas de lumières dans la nuit, de lumières dans le noir, qui parlent justement de ce... Peut-être, c'est comme, pour moi, c'est comme des figures de l'ouragan qu'on ne saisissera jamais. D'un côté, on est confronté à cet ouragan, mais on ne saisissera jamais. On en a des contre-figures ou des exemples dans la vie, dans le monde rural, plutôt que en pleine ville, par ce travail de la lumière.
Ah, tu parlais de figure, il y a aussi une autre figure à côté de celle de l'ouragan qui est assez archétypale aussi et sur lequel le film insiste et crée même quelque chose, un champ poétique autour de ça, c'est la figure de la piscine qu'on voit dès le premier plan, qu'on voit régulièrement dans le film. Je disais archétypale, effectivement, la piscine qui représente un peu l'opulence, on l'a vu au cinéma, dans le grand cinéma classique hollywoodien, y compris dans la critique de ce cinéma-là. On l'a vu aussi, par exemple, chez des photographes comme Stephen Shore, on l'a vu en peinture chez David Hockney. Et là, on voit des piscines dont l'eau est un petit peu trouble, un petit peu sale. On voit aussi des piscines vides. Je me suis demandé si ce n'était pas finalement aussi une métaphore de là où on était arrivé l'Amérique en 2024, c'est-à-dire une piscine qui serait vidée de sa substance. Qu'est-ce que vous en pensez de cette récurrence de la piscine ?
Et qui crée peut-être une continuité aquatique avec l'ouragan lui-même, parce que finalement, l'ouragan, oui, c'est de l'eau, c'est de la vapeur.
C'est peut-être l'eau aussi qui va apporter de l'eau, enfin, le phénomène qui va apporter de l'eau à la piscine et qui va le remplir de sens.
Moi, ce dont je me souviens, c'était la figure de la jeune fille qu'on voit au début du film, dans une eau plutôt claire, alors que vers la fin, c'est une sorte d'insistance sur de rester fidèle à la quotidienne, malgré tout ce qui se passe, parce que même vers la fin, elle se plonge dans une piscine plein de feuilles, on ne dit pas débris, mais donc plein de choses.
Des détritus.
Donc elle continue malgré tout de rester ancrée dans sa propre quotidien. Et moi, j'ai regardé plutôt de cet angle-là, je peux dire.
Oh. Et en effet, la scène finale, c'est aussi ce fait de rester, comme tu dis, comme pour elle aussi, les deux comédiens font demi-tour en rêvant. Alors, ça peut être interprété comme une forme de déception par rapport à cette occasion, une occasion perdue, parce que l'ouragan, en plus, techniquement, a pris une autre ligne. Mais peut-être c'est aussi cette résistance de la provenance, de d'où on est grandi, ce fait de rester comme élément.
Oui, parce que toutes ces histoires se passent dans le banlieue. Donc, banlieue, même si c'est une ville proche de Floride, c'est quand même une image très typique de banlieue américain où rien d'extraordinaire se passe. Donc, la présence de cet ouragan représente une sorte d'escapade, une occasion pour faire quelque chose de différent dans sa vie, dans sa réalité, dans son existence. Mais à la fin, c'est, comme tu as dit, ça termine par une sorte de déception, je pense.
D'ailleurs, oui, tout à fait. Enfin, je me demande juste si l'ouragan frappe réellement cette ville au final.
Non, je ne pense pas, parce qu'il il dit non, ça c'est passé à côté.
C'est ça.
Je pense que les deux comédiens ont une courte discussion sur l'ouragan, donc ça frappe pas finalement. Et donc, on sent cette déception peut-être.
L'ouragan est peut-être davantage passé dans les esprits, dans les têtes et dans les imaginaires que dans la réalité du territoire, au final.
Oui, peut-être une chose qui vient à l'esprit maintenant qu'on a parlé de ces trois films et qui nous permet presque de faire un peu une sorte d'état des lieux. Mm-hmm. On a déjà parlé beaucoup d'Amérique, beaucoup de... Les trois films, ils partagent aussi une esthétique, je dirais, qui est très forte, évidemment, pour les premiers deux dont on a parlé, Invention and Softshell, c'est-à-dire l'esthétique de l'argentique, l'esthétique de la pellicule. Alors, ce n'est pas le cas, peut-être, de No Sleep Till, même si son travail sous l'image est un travail qui cherche vraiment, je dirais presque, la sensualité de l'image en dimension physique tellement forte, tellement justement esthétique, qui nous rapproche de l'esthétique en général, qu'on pourrait dire de l'esthétique analogue de la pellicule. Donc je dirais, et je l'ai dit tout simplement aussi pour parler plus en général du cinéma indépendant américain, parce que, et pas seulement, le cinéma indépendant peut-être en général aujourd'hui, qu'il y a une énorme fascination, peut-être encore plus chez les jeunes générations, a une énorme fascination par rapport à la pellicule, par rapport au film analogue. Alors, je ne sais pas si c'est une sorte de new normal, c'est une sorte nouvelle mode. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui me semble, que dans ce film, sont peut-être un témoignage et qui me semble assez net Moi, je suis assez pour hein, en termes de goût. Moi, j'adore ce que ça nous donne, cette approche, justement, comme je disais, très sensuelle, très physique. Et on a que besoin de ces physicités, je pense, au cinéma. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Moi, je me demande si ce recours, c'est vrai, très courant maintenant à la pellicule chez ces jeunes cinéastes du cinéma indépendant américain notamment, c'est pas une manière de... un retour, en tout cas, une volonté d'imprimer, d'imprégner quelque chose de leur sujet encore davantage que ce que le permettrait le numérique qu'on sait un peu plus froid dans la manière de rendre, par exemple, ne serait-ce que les carnations, les peaux des acteurs, leurs mouvements aussi. Donc, je me demande s'il n'y a pas quelque chose comme ça d'un peu réconfortant, rassurant pour ces jeunes gens de se dire qu'avec ce matériel et avec cette technique-là, ils vont vraiment ils vont faire corps avec leur sujet. C'est une piste.
Même si on parle de métaphore, je pense que ça dépend beaucoup des possibilités techniques que ces jeunes cinéastes ont eu l'accès dans leur travail, dans leur parcours. Donc, même si on peut continuer de proposer des métaphores, ça reste quand même très ancré à leurs moyens techniques, financiers ou de leur propre lien avec les institutions culturelles d'économie qui permettent d'utiliser ce matériau, je pense.
Mais la pellicule est tout de même réputée beaucoup plus contraignante et chère que l'usage du numérique.
Justement, très justement. C'est pour ça.
Et donc ce serait une façon comme ça de marquer une rupture et d'être un peu en rébellion par un système ou une économie?
Non, je dirais pas. C'est plus parce que si quelqu'un utilise ont le moyen d'utiliser la pellicule, c'est parce qu'ils ont un accord, quelque chose avec une institution qui peuvent développer la pellicule. Donc c'est plus... ça dépend du networking, quoi.
Tu le vois comme un symptôme presque d'une génération bourgeoise, quoi, finalement.
Une gentrification
Non, je généralise pas. C'est juste une sorte de constat.
Je trouve juste une chose importante, c'est qu'il y a beaucoup conscience. Alors, j'ai pas parlé avec les réalisateurs dont on parle aujourd'hui, mais avec d'autres qui utilisent la pellicule, des jeunes cinéastes, et j'ai la sensation qu'il y a un véritable choix, quelquefois aussi avec la difficulté objective de se permettre un matériau plus cher, mais parce que c'est aussi une question du temps et de style de travail. Je pense qu'il y a un besoin de revenir à une simplicité qui est tout autre que simple, dans le sens que c'est contraignant par rapport au choix, mais de revenir à quelque chose... Comment dire, de ne pas être toujours dans cet état, on peut tout faire,
oui, c'est
et on peut tout expérimenter.
D'avoir une exigence qui vient de l'extérieur, donc une sorte de contrainte qui te pousse à être sain.
Contrainte productive, ouais. Tout à fait. Il y a aussi cette chose-là qui me vient à l'esprit, c'est que tous ces cinéastes-là sont très engagés par rapport au vivant. Tu as parlé des animaux, on a parlé d'un ouragan, des phénomènes naturels. En fait, ils filment le vivant. Et quoi de plus beau que de filmer le vivant avec du vivant? L'argentique, c'est du vivant. Hein, c'est un procédé chimique, c'est de la vie. Donc, filmer de la vie avec de la vie est quelque chose de finalement pas si stupide. Et filmer toutes ces choses avec des algorithmes, ça donnerait, à mon avis, tout autre chose, un autre rendu. Donc, voilà, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être souligné. Par rapport à ce qui lie tous ces films, je voulais aussi juste dire une petite chose, c'est qu'à mon avis, la qualité de ces trois films, c'est leur imprévisibilité. En effet, chaque nouveau plan, chaque nouvelle séquence nous emmène en territoire inconnu et inattendu. Et je trouve ça à la fois remarquable et très, très réjouissant du point de vue du simple plaisir du spectateur que l'on peut éprouver. Qu'est-ce que vous en pensez, Olcou?
Ce qui m'a frappé aussi, c'est de la modestie de ces trois cinéastes. Parce que sur des films qui traitent quand même des sujets sociaux, donc qui est inévitablement lié à ces représentations, ils sont au même niveau que leurs protagonistes ou leurs sujets. Donc, ils ne regardent jamais à une position plus haut. Donc, ils ne sont jamais hautains. Donc, cette horizontalité
une humilité du point de vue, ouais.
C'est très remarquable, et aussi ils ne portent jamais, même s'ils présentent quelques discours, des arguments, ils prétendent jamais à comprendre la société américaine. C'est le fait d'avoir des vides, des lacunes qu'ils qui leur font leur vrai mérite, je pense. Donc c'est l'insaisissable, le côté insaisissable de société américaine est vraiment une partie commune dans ces trois films, je trouve.
C'est vrai qu'ils ne cherchent pas à comprendre, tu as raison, mais j'ai l'impression qu'ils cherchent tout de même à jouer, à s'amuser avec une certaine nostalgie paradoxale qui a été créée par l'Amérique, d'images qui, dès qu'elles sont nées, en fait, sont devenues des stéréotypes. Et ces stéréotypes-là sont utilisés dans les films. Je pense par exemple aux émissions de téléachat qu'on voit dans Invention. Je pense aux motels, enfin toutes ces figures très archétypales, les motels, les piscines, Elvis qu'on voit dans No Sleep Till. Voilà, des choses comme ça qui font que j'ai l'impression que les imaginaires de ces trois cinéastes s'épanouissent dans les ruines, finalement, d'une imagerie, dans les ruines d'une mythologie qui est celle un petit peu de l'entertainment américain.
Oui, parce que les images sont tellement aplaties du passé jusqu'au présent. Donc, comment ajouter, mettre de profondeur à ces images plates? Je pense que c'est une problématique partagée entre ces trois.
Et je pense qu'il y a de la compréhension ou de la... pas envie de comprendre, je ne sais pas, dans tous les cas, il n'y a pas de jugement, mais plus que par rapport à des thématiques, je dirais, ou à une thématisation des questions sociétales ou des questions, voilà, qu'est-ce que c'est l'Amérique, où va l'Amérique, etc. Je pense que c'est par le style que ces cinéastes convainquent et réussissent vraiment à nous raconter vraiment des histoires de façon intéressante. Et le style, c'est justement de faire respirer les films. Moi, je pense que ce qu'on a dit avant par rapport à l'air, par rapport au rythme, par rapport à la dimension, à l'ascension, son problème de la non-linéarité, de la narration, etc., etc. C'est tous des éléments, quelquefois osés, hein, parce que on risque de perdre les spectateurs, le spectateur qui est habitué peut-être à des récits préconçus, etc. Mais c'est des risques qui vaut vraiment la peine de prendre, parce qu'il nous donne la possibilité après d'avoir des véritables expériences cinématographiques, des véritables rencontres, soit avec des animaux, soit avec des personnages inattendus dans le film. Et donc, je dirais vraiment pour moi, ce qui rassemble les trois, c'est un style, et c'est un style qui parle de cinéma qui respire.
Et ben c'est sur cette respiration que nous allons clore cette émission. Merci beaucoup, Giuseppe. Merci, Oiku.
Merci.
Et à très vite sur les antennes de Fluxfor.
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 Mécanisme velouté.
Mixage fusionnel.